Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 132. Mon nom est Paul Andriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Donc, on va commencer un peu par un tour d'actualité parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les prochains jours. Premièrement, c'est les 34e rendez-vous du cinéma québécois du 18 au 27 février.
Hey, Slapshot en québécois.
Slapshot en québécois va passer?
Ouais.
J'ai même pas vu ça.
C'est tout sauf le titre au beurre, mon Rémi, man. Il va falloir que tu ailles voir Slapshot.
Ouais, Rémi, il faudrait que tu ailles voir la programmation complète qui est disponible au rvcq.quebeccinema.ca.
Oh!
Moi, j'ai juste vu qu'il y avait deux films de Pascal Plante puis un de Rémi Fréchette, là, mais en tout cas...
Ben oui, parlez-en, là, c'est votre tribune. Là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous présentez?
Qu'est-ce qui se passe? Moi, en fait, c'est mon Kino Cabaret de cette année. J'oublie tout le temps les RVCQ, c'est comme tout de suite après la soumission est tout de suite après le cabaret. Puis il y a plein de monde de Kino qui l'envoie, puis à chaque fois, j'oublie, fait que ça finit à Fantasia. Puis là, cette année, je me suis dit, oh, ce serait le fun, là, tu sais, puis... Et RVCQ, c'est comme la bonne occasion quand t'as la passe de rattraper tous les films, les films de l'année. Ouais. Là. Puis cette année, j'ai été très poche au niveau cinéma québécois. Donc voilà, c'est mon cabaret qui s'appelle Le Caméra K.O.
Ouais, et puis d'ailleurs, je suis allé à la conférence de presse, puis c'est drôle parce que tu sais, comme quand il faisait un peu l'épluchette des courts-métrages, une des affaires, il dit il va y avoir notamment des premières, dont Caméra K.O. de Rémi Fréchette.
Ouais, je sais, mon nommé, j'étais dans un article, puis tout, là, c'est quand même cool, là.
Ben, c'est correct, ça, mon Rémi.
Bien fier de ça, là.
J'ai une question pour toi, Rémi, tu l'as-tu un petit peu retravaillé depuis la projection au cabaret?
Un petit peu au niveau du son, en fait. Le son n'était pas fini de mixer, ouais, mais sinon, je l'ai pas trop retouché. Là.
Okay.
J'étais quand même content du résultat. Peut-être que là, avec le recul encore plus extrême, je le recoterais, mais bon, il fait mon affaire, là, ce film-là. Là.
De toute façon, il n'y a pas grand-chose à sauver rendu là. Puis...
Merci, Paul.
Ben non, c'est pas vrai. C'est un très bon film, Rémi.
Ça. Puis moi, dans le fond, j'ai mes deux shorts qui ont abouti. Mon Kino, finalement, Drôme de marde, qui... c'est ça, Krim, qui continue à faire... Il fait sa petite tournée, là. Je suis content. C'était assez inespéré pour un film, effectivement, là, créé dans un contexte bien express, mais ça a l'air, c'est venu d'une bonne place, puis les réactions sont bonnes, c'est une comédie, ça se prend pas la tête, puis le monde y réagit bien, fait que je suis content. Ça, c'est Drôme de marde, puis Blonde aux yeux bleus, ça, c'est l'inverse, en fait, finalement, c'est le film qui est le plus élaboré, ça a été à peu près en tout et partout un genre de 2 ans on and off, là, tu sais, pour le faire. Je dis on and off parce que c'est comme le scénario, tu l'écris, tu le laisses mûrir, tu fais mille et une autre affaire, tu y reviens, tu le retravailles, tu fais mille et une autre affaire. Tu sais, c'est un travail qui n'est pas linéaire, en fait, là, dans la réalité de
ma vie. Surtout qu'on est tous, c'est ça, on est tous jeunes, on n'a pas encore le loisir de faire des projets à temps plein.
C'est ça, exactement. Donc, c'est l'aboutissement du projet le plus express que j'ai fait et du projet le plus de longue haleine que j'ai fait. Au RVCQ cette année, les amis, donc Blonde aux yeux bleus et Drôme de marde vont être présentés. Fait que, ouais, c'est cool.
Parfait, on se donne rendez-vous pour la soirée d'ouverture le 18 février, notamment.
Avec Maurice sans Béatrice.
Et j'aimerais ça que tu nous parles, Pascal, parce que là, Blonde aux yeux bleus, c'est pas la première fois que tu te présentes dans un festival. Là, tu nous arrives directement de Slam Dance.
Ouais.
Such a big shot.
Such a big shot. C'est pas la première fois que tu y vas. Et t'étais aussi présent pour Sundance, mais pas à titre de réalisateur, mais de producteur.
Ben ouais, c'est ça. Ben producteur. Genre de producteur associé, parce qu'en fait, c'est que le film, c'est Nemesis Film, donc ma compagnie de production qui l'a produit, mais c'est le réalisateur s'appelle Santiago Menghini. Et le gars, en fait, c'est entre autres, là, il fait de la prise de vue réelle, de la réalisation en prise de vue réelle, mais le gars, Santiago, il est très image de synthèse, 3D, animation. Donc, c'est comme un genre de documentaire, un court-métrage documentaire animé expérimental sur les Voyagers. Tu sais, les Voyagers qui ont été lancés... mon Dieu, il me tape sur les doigts.
C'est les sondes, en fait.
Ouais, les sondes qui ont été lancées au début des années 70, mais mon Dieu, je pourrais me tromper. Puis, donc, oui, le film a une approche documentaire, mais tu sais, c'est très... c'est très geeky, tu sais, comment j'en parle, c'est comme... Le gars, c'est un tripeur d'espace. Puis il a fait un film comme un petit gars sur l'espace, tu sais. Fait que c'est épique, là. C'est genre les Voyagers là, qui s'en vont, puis ils prennent des photos de Jupiter. Puis là, c'est comme, il te fait vivre le genre de trip que probablement les scientifiques, la première fois qu'ils ont vu les images de Jupiter, exemple, tu sais, captées par la Voyagers, devaient se ressentir. Donc, il y a quelque chose de très bon enfant, finalement, dans l'énergie qui est communiquée avec ce film-là. Mais énormément, c'est un travail d'orfèvre, tu sais, c'est vraiment là, un autre projet qu'il a fait, qui a mené à bout de bras chez lui sur son ordi. Au générique, on est 3 personnes. Il y a littéralement lui, moi, puis le mixeur qui a fait, le gars qui a fait le hot mix en surround, là, en 5.1, parce que moi, j'ai travaillé le son, Santiago a fait tout le reste, finalement. Donc, en tout cas, j'ai comme réussi à avoir une passe de producteur associé parce que, tu sais, je l'ai comme accompagné dans le processus, mais finalement, le film, c'est quasiment un film, là, c'est le film le plus do-it-yourself possible, puis c'est ça, bref, sélectionné à Sundance, un 15 minutes, son short. Donc, c'est ça, et moi, ayant la passe de Sundance, j'ai pu profiter un peu de... Ben, finalement, j'étais entre les deux mondes, donc entre Sundance et Sundance, fait que c'est ça, j'ai pu...
Parce que ces deux festivals-là ont lieu vraiment en même temps, dans la même ville.
Exactement, Slamdance est un petit peu né pour réagir peut-être à ce que Sundance est devenu, parce que Sundance, à la base, c'était censé être une plateforme pour le cinéma indépendant. Puis Sundance est un petit peu devenu victime de son succès. C'est pas juste moi qui le dis, c'est même Robert Redford, quand il parle, il dit, c'est comme c'est devenu quasiment ridicule. Tu sais, c'est genre, on prend d'assaut cette petite ville-là dans les montagnes en Utah, aux États, tu sais, à peu près à 45 minutes de Salt Lake City, puis c'est comme une mini-ville dans la ville, Sundance. C'est vraiment, vraiment, il y a quelque chose d'un peu artificiel à travers tout ça.
Puis d'ailleurs, cette année, on a beaucoup entendu parler de certaines ententes records au niveau du montant d'argent par notamment Netflix et Amazon qui ont acquis certains films pour comme 15 millions de dollars.
C'est ça, regarde. Okay.
Donc,
Sundance en trois mots, OK, c'est Netflix, Amazon puis Virtual Reality, VR. Tout était VR. Il y a VR, plein
de photos que tu as mis de VR. Là.
Man! Tout est VR, je te jure, là, c'était l'année du VR. Là. Tout était là. Moi, j'en ai fait, je n'avais jamais essayé ben, la réalité virtuelle. Là. Et moi, j'étais très sceptique parce que c'est que le VR, comme le spectateur bouge, il n'y a comme plus vraiment de mouvement de caméra possible. Il y en a, oui, mais finalement, c'est que, tu sais, mettons tes outils comme metteur en scène, tu sais, ton choix de focal ou tu sais, le montage comme élément d'expression, le mouvement de caméra comme élément d'expression, finalement, tout ça est très dilué quand la personne qui fait la réalité virtuelle est en possession de ces moyens-là, finalement. Mm-hmm. C'est que
ça se rapproche d'un joueur de jeux vidéo.
Exactement. Fait que j'étais assez sceptique jusqu'à ce que. Parce que j'en ai essayé quelques-uns, j'étais jamais vraiment sûr d'un. Le premier que j'ai fait, ça m'a quasiment donné mal au cœur. Puis, j'étais debout aussi. Là, ils disent que les premiers, il faut que tu les fasses assis. Probablement que ça aide. En tout cas, parenthèse, mais jusqu'à ce que je vois un documentaire sur l'Ebola en Afrique, au Sierra Leone, je pense, dans le film. Puis, écoute, c'est tellement réel. Là. T'as genre les jeunes Africains qui te regardent, là, puis t'es comme entouré des jeunes ou comme t'es à l'hôpital à côté des malades. Là. Puis, tu sais, je reviens souvent sur ça, comme comment je parle que le cinéma, ça change des vies parce que c'est justement, ça affûte l'empathie des gens. Ben, le VR, ça a tellement cette portée-là. Là. Si on peut lâcher le côté gadgeteux, le côté show-off, le côté jeu vidéo du VR, puis qu'on se penche sur ce que ça fait dans ta tête quand t'es aussi proche des gens, comme l'empathie, finalement, là, le fait que comme quand c'est les jeunes Africains comme malades là me regardaient dans les yeux, là, moi ça a changé ma vie pour de vrai. Là. C'est un court-métrage de 6 minutes, là. Ça m'a renversé, c'est un des highlights de Sundance. Puis, comment dire, les outils du cinéaste étaient quand même là. Les coupes, ils faisaient des fade-out et des fade-in parce que tu sais, comme tu es dans la réalité virtuelle, une coupe c'est très brutal. Ils disent soit il faut que tu l'accompagnes par un effet sonore, c'est comme quasiment quelque chose qui lead. C'est comme un genre de build-up qui lead jusqu'à la coupe, ou tu fais un fondu au noir, tu reviens, quelque chose comme ça. Mais encore là, peut-être qu'un jour, comme si on s'habitue au médium, la coupe franche va revenir, mais pour l'instant, moi, c'est ce que j'ai vu, mais disons que ça m'a redonné espoir que ça puisse être un médium cinématographique.
C'est un médium aussi, en soi, là, c'est comme...
Ouais, un médium en soi, comme tu dis aussi, finalement, tu sais, c'est vraiment à mi-chemin, au fait.
C'est une autre façon de raconter des histoires. Là. C'est un format particulier, visuel. Là. C'est un peu comme on dit que tu sois écrit pour un court, t'écris pour un long, mais là, tu pourras écrire pour pour le VR. Puis c'est ça devient comme un nouveau pinceau là, pour les cinéastes.
Après, à voir surtout s'il va y avoir une démocratisation, parce que c'est bien beau avoir des bons films, mais il faut encore qu'il y ait un public pour les voir. Puis ça semble déjà un peu plus compliqué, mais c'est pas la première manifestation où on sent que le VR est sur le point d'embarquer.
Mais c'est pas si pire, Paul. Hein? C'est pas si pire parce qu'il y a comme des... Tu peux faire sur ton téléphone, c'est juste comme un espèce de rack de plastique, puis tu peux mettre un téléphone dedans.
Oui, j'allais...
Puis c'est ça, chez nos collègues de version 10, là, j'en ai essayé un, puis c'est juste ça. Là, ils prenaient leur iPhone iPhone 6, ils mettaient dans le casque.
Un casque en carton, ça là.
Ça.
Moi, j'en ai.
C'est vraiment fou, là. J'ai jamais pensé que ça pouvait être si simple.
C'est ça, exactement. Moi, je m'en suis fait donner, là. Ils en donnaient. On était à une soirée VR, là, à Sundance, là. Puis c'était en carton, là. Tu sais, ils donnaient. On a comme ramassé deux chaque, là. J'ai comme des affaires de réalité virtuelle en carton qui marchent, tu sais. Qui marchent peut-être pas aussi bien qu'un casque. Tu sais, évidemment, comme dans toute chose, il va y avoir des gammes, tu sais. Tu peux en avoir des meilleurs, tu sais, sûrement des trucs comme vraiment plus construits, tout ça. Mais le truc en carton pour ton téléphone, sérieux, ça fonctionne, puis c'est vraiment spécial. Donc
on attend de voir si ça va faire un carton. Ouais.
Oh, voilà. Mais c'est ça, en gros, fait que je voulais pas épiloguer nécessairement sur la réalité virtuelle, mais en même temps, je trouve que c'est bien d'en parler parce que ça fait tellement poser beaucoup de questions.
Ouais, puis ça remplacera pas le cinéma, là. Mais non, en même temps, c'est ça. On attend encore que, tu sais, qu'un cinéaste de grande envergure fasse un projet là-dedans. Parce qu'ensuite, on est tous nos cinéastes préférés. Mais moi, je m'imagine facilement un Gaspard Noé faire une espèce de projet avec ça, tout en effets spéciaux. Ça peut être sûrement fascinant. Là.
Ah, Paul, tu m'enlèves les mots de la bouche. Moi, j'allais dire, le VR va exploser quand ça va arrêter d'être les gars de technique qui font le contenu. Quand, tu sais, tu prends... Je sais pas, là, c'est ça, comme tu dis, Gaspard Noé ou nommons-les, là, tu sais, quelqu'un qu'on admire pour son contenu.
Quoique, dans le cas de Gaspard Noé.
Dans le cas de Gaspard Noé, ouais, j'avoue. Ouais. Là. Non, mais tu comprends ce que je veux dire finalement, tu sais, comme que au lieu d'essayer que les superstars du VR restent à l'intérieur du VR, si jamais, je sais pas, comme des peut-être des cinéastes ou peut-être, je sais pas, des genres de...
Imaginons un James Cameron là, qui se dit « Avatar 2, là, ça se fait en VR », genre quelque chose comme ça. Ben, ou un Star Wars, genre un spin-off, quelque chose comme ça. Tu sais, un court-métrage de Star Wars entre les films avec certains des acteurs, tu les engages juste pour ça. Ben là, soudainement, ou tu sais, mettons l'univers Marvel, quelque chose comme ça. Ben là, soudainement, t'as peut-être beaucoup de gens qui vont s'équiper pour voir la suite. Là.
Exact. Maintenant, la seule affaire avec le VR, c'est que ça donne mal au cœur. Puis ils disent que c'est pour ça que le contenu est pratiquement exclusivement en bas de 10 minutes. Donc oui, probablement que le spectateur va s'habituer, qu'on va peut-être pouvoir monter de 10 à 15 à 20 peut-être, mais oubliez là, Avatar 2 de 2h40 en réalité virtuelle. C'est sûr et certain que c'est pas pour demain. Donc, dans un sens, finalement, ça laisse énormément de place à une multiplicité du contenu, mais dans un format très court.
Mais en même temps, ça revient un peu au même problème que le 3D. La 3D, il y a beaucoup de gens qui se plaignent justement que ça donne mal à la tête. Puis, tu sais, t'as vu le boost de comme. On tripe cette technologie-là, mais il y a comme une espèce de penchant négatif, puis là, les gens, ils commencent à se
tailler. C'est plus extrême que le 3D.
Mais je me suis toujours dit qu'un truc comme le VR, ou même comme les tablettes, en fait, pour le court-métrage, je crois que... Parce que là, en ce moment, il y a les court-métrages des Oscars qui prennent l'affiche. Moi, personnellement, j'ai jamais trouvé qu'une séance, mettons, de 8-9 court-métrages, un à la suite de l'autre, pour le même prix de billet qu'un long-métrage... que c'était nécessairement le format optimal. Puis je me suis toujours dit que ce serait bien dans les halls des cinémas, tu sais, en attendant ton film, qu'il puisse avoir des bornes que tu puisses servir, puis mettons, louer pour $1 un court-métrage, ou dans ce cas-ci, peut-être, comme il y a des machines d'arcade de jeux vidéo là, dans les cinémas, dans les multiplex, ben pourquoi pas installer des casques de réalité virtuelle, tu sais, libre-service, et si tu as le goût de payer $1, mettons, puis tu écoutes ton court-métrage avant que le film commence, en attendant, ça pourrait être une option, je pense.
C'est une super bonne idée, moi, je trouve.
Mais tu peux citer là gratis de même, toi. Hein? Tu pourrais faire un Kickstarter, puis...
Peut-être que j'ai pas les ressources pour ça, mais non, mais c'est une idée que j'en suis comme ça, je sais pas, il me semble que ça pourrait être plus simple que de rentrer dans une salle commune puis d'avoir plein de casques, donner des casques à tout le monde. Tu sais, comme le 3D, on donne les lunettes à l'entrée, mais à quoi bon aller dans une grande salle pour une expérience de VR? Donc, à méditer.
Oui, à méditer. Ben, disons que... Puis de voir à quel point c'était implanté à Sundance. Je te jure, je suis arrivé puis j'ai eu l'air d'un dinosaure. Fait que, mais j'étais comme, ben là, j'ai pas le choix d'aller l'essayer, puis un autre. Puis c'est vraiment à nos portes, tu sais. Puis j'ai comme pas réalisé à quel point c'est à nos portes. Là, évidemment, Sundance, c'est un peu comme la foire du cinéma et des nouvelles... Bon, tu sais, c'est quand même pas la vraie vie, là. Mais quand même, tu sais, ça m'a vraiment fait poser beaucoup de questions à ce niveau-là et ce que le futur nous réserve. Donc voilà, ça, c'était pour le penchant réalité virtuelle. Mais comme c'est un podcast sur le cinéma...
C'est ça, niveau cinéma traditionnel, le conservateur, vieux jeu. Là, qu'est-ce qui se passait cette année à Sundance/Slamdance?
Bon, OK, ben regarde, je vais pas raconter tout ce que j'ai vu parce que maintenant, ça finira plus. Je vais peut-être m'attarder sur deux films. En fait, celui de Sundance, il s'impose de lui-même. J'ai juste été en voir un, pour la simple et bonne raison que Sundance, comme je disais, c'est victime de son succès. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment un projet d'aller voir un film à Sundance. Donc, c'est ça, je n'ai juste vu un finalement. Je vais y revenir après.
Est-ce que c'est difficile d'avoir des billets ou c'est comme full, full rempli partout?
Ouais, ben, tout est tout le temps rempli, mais c'est même quand tu as des passes. Il faut comme que tu te lèves tôt, que ben, t'sais, super tôt, que tu arrives comme. Il débloque la billetterie t'sais, un certain nombre de temps. Là, des fois, même, ça se fait en deux temps parce que tu as un numéro. Fait que tu fais un line-up pour avoir un numéro, pour avoir un line-up pour peut-être rentrer dans la salle. T'sais, c'est vraiment. Mm-hmm. Puis tout est tout le temps prévendu mm-hmm. par on sait pas comme quel mystère. C'est vraiment. C'est vraiment compliqué, en fait, étrangement, ouais. le système de billets.
Puis aussi, vous, j'imagine, vous aviez des rendez-vous, vous aviez vos propres projections, donc vous aviez pas que ça à faire, passer la journée à attendre dans des films. Là.
Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu damnant, des fois, de se dire... par contre, pour être fair, ça ralentissait. La première fin de semaine, c'était extrême. Puis plus ça allait, finalement, tu te sentais que dans la semaine qui suivait, après, là, à côté du mardi, mercredi, là, il commençait à devenir un peu plus tranquille. Puis c'est là, finalement, on était voir des films un peu plus, plus vers la fin quand ça ralentissait un peu. Mais non, sinon, les activités, ça foisonnait. Mais bon, juste Slamdance qui fait donc le penchant extrême indie que Sundance n'est peut-être plus. Slamdance, donc, propose des premiers longs-métrages. C'est ça la vocation là, du festival pour les longs. C'est tous des premières œuvres. C'est tous des films aussi avec un budget relativement restreint. Qui dit budget restreint, il ne veut pas nécessairement dire perte de qualité. Il veut simplement, je pense, dire alternative, peut-être narrative. Tu peux prendre des chances. Puis parlons, tiens, du film. J'ai un que je veux vous parler, il s'appelle Driftwood. C'est réalisé par Paul Taylor. C'est le film justement qui a gagné le Grand Prix du jury à Slamdance cette année. C'est un film de 1h15, aucun dialogue. Donc, c'est assez intéressant. C'est très mystérieux aussi. Donc, on suit l'histoire d'une jeune femme sans nom qui semble un peu apparaître aux abords d'une plage. Se fait, je dis kidnapper, mais encore là, c'est plus mystérieux que ça. Elle se fait comme embobiner par un homme inconnu. Puis finalement, elle devient un peu son espèce d'esclave, mais encore là, elle a de l'air un peu débile mentale, la fille. En tout cas, elle a pas de l'air toute là. C'est très métaphorique. Puis éventuellement, il y a même d'autres genres de prisonniers comme ça qui commencent à se mettre au travers du chemin là, de ce genre de microcosme-là que t'as l'impression... C'est un genre de film... Ah, mon Dieu, c'est dur à décrire. Je m'écoute parler. Ça marche vraiment pas, mon synopsis. Mais disons que c'est un film qui crée sa propre logique. C'est un film qui... Un peu... Attends, regarde. Un peu comme un Yorgos Lanthimos, par exemple. Tu sais, vous avez vu The Lobster. Toi, chez Crémy, t'as vu The Lobster. Si vous avez vu Dogtooth...
Oh my God!
Ça a un peu cette aura-là. Là, très mystérieuse, très énigmatique, qui se découvre... Comme il se découvre.
Ouais, rien n'est expliqué, ouais. Mais les règles se créent pendant le film.
Les règles se créent pendant le film. C'est juste finalement une proposition extrêmement audacieuse. Seul un premier film extrêmement low budget peut le mener comme ça, peut-être. Puis ouais, ça en fait une œuvre finalement extrêmement unique et très intéressante. Donc, est-ce que c'est peut-être le meilleur long métrage que j'ai vu à Sundance? Non, pas nécessairement, mais c'est un prix du jury qui est quand même mérité, à mon sens. Donc, ouais, je voulais peut-être. Donc, Driftwood de Paul Taylor qui va peut-être éventuellement retentir quelque part. Mm-hmm. Donc, ça, c'est pour celui-là. Maintenant, côté Sundance, j'ai pu voir le long métrage Love Song de la réalisatrice coréenne So Young Kim. C'est pas son premier film en langue anglaise. Je pense qu'elle est née en Corée, mais qu'elle a grandi à Los Angeles ou quelque chose comme. Ça, c'est un film avec Jenna Malone, entre autres. Un genre de drame là, très subtil, avec un protagoniste là, un peu introverti mais profond, qui a un enfant et un mari, mais que finalement, elle invite, parce que son mari n'est pas là, puis il est en congrès d'affaires, puis ça s'éternise, puis ça marche pas, elle invite une de ses bonnes amies finalement à passer le week-end avec eux. Puis ce genre de week-end-là devient un... Ben, finalement, ils s'éprennent l'une de l'autre, mais les deux osent comme pas plonger vraiment dans leur amour naissant. Ils savent pas trop comment le définir. Donc, un film d'amour lesbien, mais très, très poli, très tout en subtilité, tout en finesse. c'est pas un film que tu ressors nécessairement énergisé, mais c'est pas un film que je trouve réellement de faille. Il n'y a pas de réel défaut. Donc Love Song, là, moi j'ai l'impression que c'est un film que les critiques vont qui va atterrir avec des bonnes critiques en fin d'année, des très bonnes performances centrales là, des deux actrices principales, donc ouais, c'est ça ressemble à ça, mon petit volet Park City, Sundance, Slam Dance, voilà.
Parfait, super, donc on est tous très jaloux évidemment, et on te souhaite d'y retourner l'année prochaine.
Ah ben là,
autre événement qui ont lieu à Montréal dans les prochains jours, le 19e Festival international du film pour enfants de Montréal a lieu du 27 février au 6 mars. Oh yeah. Toutes les informations sont au fifem.com. Et c'est en cours en ce moment, ça se poursuit jusqu'au 11 février au cinéma Banque Scotia. C'est le Great Digital Film Festival, donc l'occasion de voir sur grand écran quelques classiques du cinéma, notamment dans les prochains jours, il y a encore à voir... ou à revoir Inception, Ghostbusters, The Thing et True Romance.
Oh ouais.
Donc, toujours agréable hein, de voir sur grand écran de certains films. Puis d'ailleurs, une des choses, c'est souvent, moi, je suis connu pour un peu me moquer des Oscars, ne pas trop m'en faire, puis pas trop y porter attention. Mais s'il y a une chose que j'apprécie vraiment beaucoup des nominations aux Oscars, c'est qu'il y a plusieurs films qui ont repris l'affiche, en fait, dans les cinémas. Puis tu sais, c'est dommage parce que de nos jours, on n'a plus nécessairement cette habitude-là. Faut dire aussi qu'il y a plus d'offres que jamais. Tu sais, peut-être dans les générations précédentes, on n'avait pas nécessairement accès à autant de films étrangers. Mais ce que ça fait d'avoir autant de films qui sont produits à chaque année, puis autant de cinémas indépendants, c'est que les films restent vraiment moins longtemps à l'affiche. Donc, tu sais, il n'y a pas longtemps, je lisais un livre sur un peu le nouvel Hollywood. Vraiment un très bon livre qui s'appelle Five Pictures and the Revolution. Et ça parle en fait des Oscars de 1967 avec les cinq films de Graduate, Dr. Dolittle, In the Heat of the Night, Bonnie and Clyde et c'est quel le cinquième? Guess Who's Coming to Dinner?
Ah oui, ok, ouais.
Et ça parle vraiment un peu ça d'une espèce de passage de flambeau entre le système de l'ancien Hollywood qui privilégiait donc les productions, tu sais, avec les employés qui sont payés, tu sais, à la semaine, qui font plusieurs projections qui s'enchaînent. Et c'était vraiment juste quelques années après le Sound of Music. Donc tous les studios se lançaient dans les grands musicals, les films de 3 heures avec intermission. Ils sont pas mal tous plantés, ces films-là. Et le Dr. Dolittle, entre autres, c'est vraiment planté. Il y avait aussi Cléopâtre l'intervalle.
C'est tellement planté qu'ils ont fait un remake.
Il y a plein de films qui se plantent puis qui refont un remake après.
Mais non, c'était une joke.
Et c'était juste avant aussi, ça, Easy Rider, ce genre de films-là. Et c'était vraiment... Puis comme Mike Nichols pour The Graduate, c'était son deuxième film seulement. Et il y a comme eu un passage de flambeau parce qu'il y avait également donc les écoles de cinéma qui s'ouvrait, tout ça. En tout cas, une grosse parenthèse pour dire que ce qui est le fun avec les Oscars, c'est qu'on peut avoir des films qui restent des mois à l'affiche, puis ça, c'est quand même très rare de nos jours, alors qu'à l'époque, c'était monnaie courante d'avoir des films qui pouvaient être un an ou deux à l'affiche, tu sais.
Puis c'est des films avec une certaine, tu sais, avec une qualité aussi, tu sais. Bon, c'est pas Parole d'Évangile, les Oscars, on le sait. Je veux dire, Bridge of Spies est nominé. Non, mais ok.
Ah, j'avais pas vu.
Je suis mauvaise foi. Non, je suis mauvaise foi. Mais mon point, c'est que, tu sais, bon, on sera toujours d'accord ou pas d'accord, c'est pas ça le point, mais le but, c'est que, tu sais, c'est quand même finalement de mettre toute l'attention sur des films qui se veulent des films à contenu, tu sais, des bons films finalement, tu sais. Mm-hmm. Pas des films qui sont juste là parce que c'est ça, c'est des énièmes suites de je sais pas quoi, puis que tu sais, c'est des films qui sont là avec un agenda plus mercantile, tu sais, c'est des films un peu plus à contenu. Fait que c'est fun, c'est ça, si ces films-là, ils reviennent puis que ça crée cet engouement-là. Moi, je te seconde, moi, je trouve que c'est bien. Maintenant, le côté un peu bizarre de tout ça, c'est quand tu utilises ces galas-là comme outil de marketing. Puis tu sais, il y a eu toute la polémique autour des JUTRA, là. Je sais pas si on veut vraiment en revenir parce qu'il y a beaucoup de choses que, tu sais, il y a eu des tirs croisés beaucoup entre, bon, tu sais, d'un côté, t'as Hugo Dumas puis Sophie Durocher, puis t'as de l'autre côté, t'as finalement les cinéastes et les cinéphiles et ceux qui essayent d'articuler une pensée intelligente sur le sujet. Non, mais, faut pas non plus carrément ne pas écouter. Un chroniqueur qui dit personne ne les a vus ces films-là et c'est un problème parce que finalement c'en est quand même un malgré peut-être la faiblesse de certains arguments puis que tout son plaidoyer est basé sur son ignorance finalement, tu sais, c'est qu'il se complaît puis il justifie son ignorance comment dire, en essayant d'embarquer le plus de gens possible avec lui. C'est un peu malhonnête, là, mais il faut quand même écouter ça. Mm-hmm. Mais, donc, mon point, par exemple, c'est... Oui, d'un côté, c'est un show de télé, on pourrait jamais enlever ça. Donc, ça prend quand même des films que les gens ont vus, parce que si les gens se reconnaissent pas dans la proposition de ces galas-là, c'est étrange. Mais en même temps, ça va complètement dans l'autre sens, et ça rejoint ce que tu viens de dire, Paul. C'est si finalement une nomination aux Jutras pouvait faire quasiment la même affaire qu'une nomination aux Oscars, que personne vraiment, tu sais, on se plaint pas, là, quand aux Oscars, il y a un film que personne n'a vu qui est nominé, tout le monde va faire « Ah, c'est quoi ce film-là, je veux le voir. » Donc, le côté très réfractaire québécois de par rapport aux Jutras me surprend personnellement, mais ça serait donc bien que, tu sais, que je sais pas moi, que les êtres chers reviennent à l'affiche.
Oui, bien, effectivement, dans la fourrée, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas justement cette ressortie.
Donc, une chance que les RVCQ font ça, tu sais, là, ils mettent beaucoup l'accent là-dessus. Il y a justement.
Ouais, le rattrapage, il y a
exactement. Puis, tu sais, même ces films-là, ils ont des bons horaires. Tu sais, c'est rendez-vous avec les Jutras. Je pense que c'est tous les soirs à 8h30, du lundi au vendredi. Tu sais, tu as les 5 films finalement en nomination. Moi, j'ai pas vu La Passion d'Augustine. Je vais sûrement aller le voir au rendez-vous. Tu sens qu'ils ont voulu créer ça.
Cette année, en même temps, c'est parce que tu chiales sur les. Tu sais, on va chialer sur le. C'est des films que les gens ont pas vus, là, mais on s'entend que l'année du cinéma au Québec, ça n'a pas été une grosse année. Ouais, là. Ben... Habituellement, il y a quand même quelques films qui sortent du lot et qui sont vraiment qui font l'unanimité critique populaire aussi. Les gens vont voir, on a les gros films, là, les gros films québécois qui plaisent au peuple, t'sais, qui plaisent à la masse. Là, mais là, cette année, ça a été quand même des plus petits films qui ont peut-être eu moins de visibilité. Ouais. Là.
Ben, c'est une question complexe, je veux dire, c'est parce que oui, c'est. Comment dire, il n'y a pas genre Mommy nominé partout, ou il n'y a pas, tu sais, comme des films comme ça nominés partout.
Ou un Louis Cyr, là, tu sais, qui est un gros film qui n'est pas parfait, mais c'est un film qui plaît au public en général, là, qui est fait pour. Ouais.
Mais je trouve juste ça dommage, l'attitude de je ne l'ai pas vu, donc ça ne vaut pas la peine d'être vu. Tu sais, c'est une logique circulaire qui encourage la bêtise puis l'ignorance, finalement. Au lieu d'encourager la curiosité, peut-être, tu sais. Puis qu'on prenne au sérieux ces seal of approval-là. Tu sais, les Jutras, c'est pas parfait, mais c'est un certain gage de qualité qu'on peut, tu sais, on peut discréditer, mais de le faire complètement, je sais pas, c'est un peu.
Ben, c'est ça le problème aussi, c'est que je trouve que c'est un peu un faux débat. Tu sais, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'un chroniqueur télé a parlé d'un milieu qu'il ne connaissait pas nécessairement et qu'on lui a accordé vraiment beaucoup d'attention. Moi, si, mettons, je fais une chronique sur les séries télé qui ne m'attirent pas, à quoi, quel est l'intérêt,
finalement? Ouais, c'est ça.
Donc, il y a ça, premièrement. Pas que je veux totalement le discréditer, mais ça faisait un peu je parle sans vraiment savoir de quoi je parle. Et, tu sais, mettons, en France, tu as le prix Goncourt, là, tu sais. Et c'est les gens, bon, accordent de l'attention ou pas, mais est-ce qu'on veut nécessairement donner le Goncourt parce que c'est un livre populaire? T'sais, est-ce qu'on veut le donner à Fifty Shades of Grey? Tout ça, t'sais, c'est absurde, mais c'est le même genre d'argument qu'il y avait un peu.
Ah ouais, bah ouais.
Et puis, moi, si je vois un livre, mettons, que j'ai aucune idée c'est quoi l'auteur, mais tu dis, ah, le prix Goncourt, bon, ben, crème, un jury indépendant a considéré que c'est le meilleur livre de l'année, puis c'est ça qu'il faut. Il faut que les Jutras, ça reste comme ça.
Ah oui, bah oui,
Et jusqu'à preuve du contraire, c'est effectivement le cas. Ensuite, on peut prêter l'attention qu'on leur donne personnellement, que ce soit les Jutras ou les Oscars, mais il ne faut pas que les Jutras, ça devienne automatiquement un concours de popularité. Déjà que les Jutras, c'est genre un des seuls galas au monde qui donne ce qu'on appelle le billet d'or.
Billet d'or, ben oui.
C'est-à-dire le film qui a fait le plus de recettes au box-office. Ce que moi, je trouve profondément con, dans le fond.
Est-ce que ça se fait encore? J'ai entendu parler que... qui avait comme arrêté de faire ça, ou je sais pas trop
quoi. Non, ça se fait.
C'est une légende.
Ça se fait. Ça se fait, ouais.
Ah, ça se fait encore, ouais, ok. Parce que souvent, c'est comme, ouais, puis à chaque fois, c'est réinvesti dans des cochonneries, là.
Non, mais maintenant, c'est ça. C'est que maintenant, il n'y a plus les emplois par la performance. C'est
c'est ça. J'ai mêlé avec ça, excuse-moi.
C'est du côté Téléfilm Canada qui.
C'est ça qui a été coupé,
Donnait un peu les yeux fermés, une enveloppe aux producteurs, productrices qui avaient eu le film qui avait le plus gros succès. Mais bon, donc, c'est ça. Donc, les Jutras, moi, je pense pas nécessairement qu'il faut qu'ils plaisent à la majorité. Et c'est des professionnels du métier, en fait, qui font les nominations aux Jutras. Ils vont prendre, mettons, deux maquilleurs, un technicien au décor, trois perchistes, deux acteurs. Ils assemblent un panel d'environ 30 professionnels qui...
Ouais. Et des critiques, certains critiques.
Et des critiques qui vont écouter tous les films... qui sont éligibles. Et selon moi, c'est un procédé qui est beaucoup plus transparent et clair que d'autres galas.
Ben oui, ben oui.
Et ensuite, c'est l'ensemble des donc de ceux qui sont invités à voter qui vont déterminer les gagnants. Pour les nominations, on pourra toujours décrier ou regretter que tel ou tel film n'a pas été en nomination. Mais comme il y a tellement un petit bassin, la plupart du temps, je trouve que les jutras, c'est assez bien, tu sais. Mais ce qui compte, c'est que c'est un processus démocratique et que ce n'est pas un exercice de popularité.
C'est un processus. Puis, tu sais, il y a certains articles qui essaient de mettre au point, justement, qui expliquaient un peu comment que le processus est fait, parce que c'est comme s'il fallait quasiment qu'ils défendent tout ça, en disant, finalement, et c'est vrai, que les gens qui votent sont aussi surpris que les autres, finalement, de voir les résultats. C'est un peu comme nous, on fait nos top 10, OK, puis, tu sais, on est les premiers, là, à sécher les babines, puis à avoir hâte de savoir, là, c'est lesquels nos films, selon notre consensus point de vue et selon les opinions de tous les gens, ça va être lesquels, un peu, les films qui trompent, tu sais. À Mané, oui, même les voteurs ont un poids dans la balance, évidemment parce qu'ils votent, mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas une espèce de cartel secret qui tire des ficelles secrètes pour genre favoriser une clique ou quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est ça reste quand même quelque chose, finalement, comme tu dis, de démocratique, puis qui en vient qu'à surprendre même les principaux intéressés. Moi, je trouve ça, puis c'est correct, tu sais, ça doit rester comme ça. Fait que, anyways, regarde, on pourrait en parler jusqu'à demain matin, mais au final, ça me désole un peu qu'un film comme, tu sais, comme mettons Corbeau puis Les êtres chers, particulièrement ces deux-là là, dans les nominés du meilleur film au JITRA, c'est des films qui n'ont pas nécessairement trouvé leur public autant qu'ils auraient dû, à mon sens. Et c'est dommage, tu sais, fait que pourquoi que quand il est nominé au JITRA, au lieu de dire, ah ben là, tu regarde le film que personne n'a vu est nominé, pourquoi ça pourrait pas, il me semble, dans une utopie là, parfaite d'un cinéma québécois en santé, si ça pouvait pas donner une belle petite poussée à ces films-là, s'ils pouvaient revenir dans quelques salles, quelques semaines, ou être disponibles comme ça pour que les gens les voient avant les JITRA. Tu sais, il me semble
ça serait... dur à trouver, là. Ça pas rapport.
Ce serait ça que ça prendrait, me semble, tu sais, pour réconcilier le public et les ouais, et bon, le prix, après. Finalement. Mais bon.
Ouais.
Mais bon.
Mais aussi, ce qui est bien, c'est que tu sais, éventuellement, là, il va y avoir un film de couronné comme meilleur film selon la QV de 2015. Et ce saut-là, en fait, du droit du meilleur film, ça va sûrement pouvoir l'aider à se trouver un bon spot à la télévision, éventuellement, une bonne plage horaire. Et tu sais, ça va sûrement avoir, il va sûrement avoir l'engouement auprès du public. C'est-à-dire, telle journée, mettons, à TVA, c'est le meilleur film qui va jouer.
Mais ça revient des faux cinéma. Moi, j'ai déjà vu ça, par exemple. Films québécois après le, c'est les gagnants souvent, là. Mais c'est plate parce que c'est pas avant le gala. Mais j'avais déjà vu des films revenir après le gala. Mais c'est souvent dans les cinémas indépendants. Là, je les avais vus, entre autres, à la Maison du cinéma à Sherbrooke, au parc ou...
Mais tu l'as dit,
René, semaine, juste, puis c'est le gagnant qui va passer.
Mais ça, c'est super cool, OK? Puis non seulement ça, mais regarde, mettons, c'est ça, en fait, moi, qui me fait dresser le poil, c'est que, genre, allez-vous écouter le gala du 20 mars? Non, moi non plus, parce que j'ai pas vu les films. Genre, OK, mais, tu comme, regarde, on a un mois et demi, là, avant le gala du 20 mars, pourquoi, justement, tu prends pas le temps, peut-être, d'aller voir les films nominés, puis d'aller voir les propositions? Ce que je veux dire par là, c'est qu'entre le moment où les films sont nommés et le moment du gala, il y a quand même un genre de période tampon, là, où si toi, t'es pas vu, puis tu dis cinéphile, ben, crime, tu vas aller le voir. Puis, tu sais, il me semble que c'est simple de penser comme ça. Comme tu m'as dit, Rémi, tu sais, toi, quand t'avais fait un gros rattrapage en décembre, puis quand les nominations des Oscars sont sorties, tu t'es rendu compte, ah, crime, il t'en restait encore d'autres à rattraper. Je suis sûr que depuis le temps, t'as vu quelques autres films qui sont nominés aux Oscars, puis que quand la soirée va être là, ben, tu vas peut-être avoir vu plus de films, puis tu vas être plus en connaissance de cause. Tu sais, c'est
comme. Exactement. Puis à chaque année, j'attends les rendez-vous, parce que c'est la seule occasion de rattraper le cinéma québécois, là.
Ben, pareil, tu sais, fait que. Regarde, moi, donc, en tout cas, cette longue tirade, je supposais, tu sais, finalement, au RVCQ, allez les voir, Sacrifice, puis moi, j'ai pas vu La Passion d'Augustine, c'est drôle, parce qu'en fait, c'est un des films qui était le plus
rare. C'est le gros film de la batte.
Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, comme, je vais aller le voir, moi, au RVCQ, tu sais, ça sert à ça, fait que c'est ça.
Surtout que c'est tellement un faux débat, parce que, tu sais, faire un concours de popularité, les gens qui sont populaires, puis les films qui sont populaires, qui mettent en vedette des acteurs populaires ou qui sont de cinéastes populaires, par définition, c'est des gens qui sont plus aptes à trouver un public, à trouver du financement, à faire des projets, puis ça avance. Tu sais que, je sais pas moi, il y avait une mini-controverse parce que là, tu avais Louis Morissette là, qui se demandait parce que là, le Mirage avait fait le plus d'entrées en salle, mais la guerre des trucs animés en 3D avait fait plus d'argent à
Ouais,
cause
vu que du
que
3D, ouais.
à cause du prix des billets. Donc là, il était comme, mais là, est-ce que c'est nous qui vont recevoir le billet d'or, tout ça? Tu sais, c'est comme, tu sais, genre, pour vrai, Louis Morissette, tu peux faire à peu près ce que tu veux, tu sais. Non, mais c'est vrai, il est tellement, c'est un des artistes québécois qui peut se permettre à peu près de faire tout ce qu'il veut, tu sais, comme un Patrick Huard ou comme, tu sais, d'autres acteurs ou actrices. Ou artisans qui sont méga connus. Donc, les uns aux autres, t'sais, lui qui a gagné vraiment, c'est pas Louis Morissette là-dedans. Ça va être une Anémone, ça va être je sais pas qui, ceux qui sont nominés, qui sont moins connus.
Non, donc, c'est clair. Après ça veut pas dire qu'il a pas travaillé fort pour se rendre là où il est. Puis en fait,
non,
c'est sûr que, je veux dire, tu le nommes, Louis Morissette, Patrick Huard, c'est quand même du monde qui ont quand même bâti leur empire au compte-gouttes lentement, mais sûrement. Là. Puis c'est correct, c'est super fair, mais justement, rendu là, c'est ça. Ça devient plus ton espèce d'outil promo marketing sur lequel tu vas surfer. C'est ça. Là. Maintenant, il faut aussi...
Ouais, si tu devrais encourager les autres aussi, puis être content pour les autres. Là.
Ben ouais, puis il faut ramener les films dans l'équation. Puis si les gens l'ont pas vu, ben, qu'ils les voir, bordel.
Sinon, tantôt, j'ai commencé un peu à parler de l'ancien Hollywood et du nouvel Hollywood.
Oui,
tout ça.
Oui, excuse-moi.
C'est correct, mais c'était notamment parce que je voulais en venir au nouveau film des frères Coen, Hail Caesar, qui viennent prendre l'affiche. Et donc, en gros, ça, c'est un peu un retour, c'est un peu comme une lettre d'amour au cinéma d'antan, cinéma des années 50, cinéma grand public aussi, le divertissement populaire au sein de studios. Qui est vraiment mené avec fermeté. Donc, on dit toujours une main de fer dans un gant de velours. Donc, c'est un peu ça, le personnage principal qui est joué par Josh Brolin, qui run un studio. Et donc, éventuellement, il y a une capture, un kidnapping d'un des acteurs principaux, un des acteurs principaux, dis-je bien, d'un de ces films-là, qui est joué par George Clooney.
Quel casting quand même, là!
ouais, parce qu'il y a une gueule d'acteur de cette époque-là, un peu quand même, hein. Il y a ce genre de prestance-là, ouais, c'est un bon casting.
Genre de classisme un
moi,
peu...
Moi, ça me rappelle de Good German, un peu, là, de le mettre en tête comme ça, là.
Et ça, c'est vraiment, finalement, la trame narrative un peu principale qui sert de prétexte à toutes sortes de digressions.
Parce qu'au final, on va se le dire, là, l'enquête principale est pas tant... c'est vraiment une mince ligne dans le film. Au final, t'en sors, puis c'est vraiment un genre de film à vignette. Ça présente toutes les étapes de la production, tout le genre de production qui se faisait à l'époque. Pis c'est vraiment une excuse pour montrer les étapes de production. Là, on va passer d'un musical à la... Ça, c'est probablement une des meilleures scènes du cinéma de cette année. Là, genre, je le dis avant même que l'année soit bien entamée, mais une scène à la Gene Kelly de musical. Là. Mais après ça, on s'en va passer un petit moment dans la salle de montage avec un personnage joué par Francis McDormand qui est là pour comme 5 minutes dans le film, mais une super belle scène qui est là, puis t'es avec la monteuse, puis après ça, tu passes à une autre scène. Mais tout ça, c'est lié par l'enquête qui est un petit filet. Hein. C'est comme c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de place dans le film, disons-le.
Non.
Et ce film-là, c'est un peu un discours sur l'art populiste versus peut-être le travail d'auteur. C'est également une réflexion sur le cinéma en tant qu'industrie versus un cinéma en tant que corps. Les Coen, bien sûr, qui depuis toujours un peu jouent sur cette balance-là. C'est vraiment deux auteurs à Hollywood qui ont établi leur univers très particulier tout en recevant l'appui des studios et en rencontrant à plusieurs reprises le succès populaire et critique. Donc, on sent vraiment un film qui est très personnel, mais qui est également très, très drôle, très ridicule par moments. On est plus proche de leurs comédies, comme par exemple Raising Arizona, qu'on peut l'être de leurs films sérieux, comme Barton Fink, qui lui, justement, joue un peu dans les mêmes eaux.
Ben, on voit aussi qu'ils alternent hein, à chaque année, à chaque deux films, en fait, ils font comme un... Tu sais, juste avant, c'était Llewyn Davis, qui était un drame vraiment plus low-key, là, puis après ça, ils s'en vont dans la grosse comédie. Ils vont toujours alterner. Après No Country for Old Men, ils avaient fait Burn After Reading, tu sais. Il y a toujours cette alternance-là. On dirait qu'il faut qu'ils lâchent leur fou une fois, ils reviennent dans quelque chose de plus posé, là, ils relâchent leur fou. Ce qui est vraiment cool, en fait, parce que à chaque fois, il y a un bel effet de surprise dans leur cinéma, là.
Donc, ma question pour toi, Rémi, c'est est-ce que cet effort-là des frères Coen t'a convaincu? Et est-ce que c'est autre chose que simplement une espèce d'avalanche de vignettes?
Ben écoutez, moi je suis pas très critique envers les Coen, hein. Comme vous savez là, j'aime beaucoup beaucoup ce qu'ils font, donc ça reste que si vous appréciez pas les comédies des Coen, l'humour absurde, le genre de comédie qu'ils font à l'habitude, c'est peut-être pas quelque chose qui va vous accrocher là, mais pour moi j'ai ri tout le long là, ça marche vraiment bien, c'est une comédie qui est au-dessus de toutes les autres comédies qui sortent en général au cinéma, puis c'est une belle comme tu disais tantôt, c'est une belle lettre d'amour envers le cinéma, puis une belle remise en question, en fait, parce qu'en gros, le personnage de Josh Brolin, tout le long, il se demande pourquoi je fais ça, puis est-ce que je devrais continuer. Il se fait offrir un autre emploi dans un pour en fait aller construire des avions, un truc comme ça, là, aller dans un département d'aviation, puis tout le long, il remet sa job en question, il est toujours dans le rush, toujours en train de materner, en fait, ses comédiens, ses techniciens. Puis il se demande toujours s'il devrait lâcher ça pour aller vers une job plus payante où il y a plus de temps, où il est plus relax, ou s'il va rester dans ce truc-là qui est complètement fou, complètement qui est rempli de surprises là dans cet univers-là. Donc mais ouais, moi l'effet de surprise des Coen, ça il a bien marché là. Chaque scène, il y a un petit bonbon, il y a un petit quelque chose d'original. C'est aussi un éventail de caméos là, comme je disais, il y a des scènes où il y a comme des, tu sais, Jonah Hill, il est dans le trailer là, mais dans le film il est peut-être là 2 minutes là pour vrai là. Il apparaît 2 minutes puis il repart, puis c'est vraiment correct. Quand tu vois le film comme un film à vignette qui est tissé par cette petite ligne-là, ben tu l'acceptes, puis c'est vraiment cool. Toujours la surprise comme « Oh my God, OK, lui, il vient de popper pour faire ce petit morceau-là. » Puis il y a une belle citation qui dit dans le film, Josh Brolin, c'est comme « Tout le monde est important dans un film. Le tout est toujours super important. » Puis j'ai vraiment aimé ça comme comme quote, parce que justement, tu sais, Chaque petite partie de ce film-là peuvent sembler inutiles, mais en même temps le tout fonctionne, puis tout le monde je sais pas, il y a comme une espèce de flow qui est vraiment original là-dedans, puis ouais, ça a bien marché pour moi là.
Ils ont l'air de vouloir communiquer une énergie peut-être plus que qu'une histoire précise ou quelque chose comme là. Tu sais, c'est un délire, puis on dirait que ben je l'ai pas encore vu là, justement là, je vous prends au mot, mais je suis prêt à les accepter dans leur délire, en fait. Je trouve que c'est souvent là où les Coen sont quasiment les plus satisfaisants pour moi depuis quelques années.
Oui, oui, puis qui est à l'antipode de Lewin Davis dans un sens, là.
Oui. Puis toi, Paul?
Ben, c'est ça. Moi, honnêtement, jusqu'à preuve du contraire, c'est le film à battre pour 2016. Je trouve que c'est un excellent film, mais je trouve qu'on a tendance... Ah ouais, moi, je trouve qu'on a tendance généralement à un peu lever le nez sur les comédies.
Ben oui.
Faut dire que souvent des comédies qui sont assez oubliables, très peu marquantes, qui sont aussi très peu soignées. Souvent, les comédies, ça passe par les dialogues ou par la qualité des interprètes, la qualité d'improvisation des interprètes. Mais là, on a une comédie vraiment calculée au quart de tour. T'as toujours un personnage d'ailleurs qui regarde sa montre, et sa montre est presque toujours à comme leur pile, tu sais. Puis ça, pour moi, ça symbolise bien un peu leur cinéma des frères Coen, où il n'y a pas vraiment de place à l'improvisation. C'est un film qui est très très proche aussi du cinéma de Wes Anderson, si on a vu d'ailleurs Grand Budapest Hotel, mais de Ralph Fiennes, qui reprend à peu près le même type de personnage, c'est-à-dire un personnage très distingué dans un monde de barbares. Il y a une scène vraiment comme... Ça va sûrement être la meilleure scène de l'année, ou l'une des meilleures, entre justement Ralph Fiennes, qui est un réalisateur un peu à la Ends of Beach, qui fait un peu des comédies de dialogue et des espèces de films, des dramédies un peu, on dit en anglais.
Ben les grandes romances, en fait, over the top, là, avec les grands costumes, les décors.
Et le jeune acteur qui est joué par Alden Ehrenreich, jeune acteur que, selon moi, on va voir de plus en plus. Là, on ne le connaît pas beaucoup, il a joué quand même dans quelques films.
Il sort un peu hors de nulle part, puis my God, quel acteur, là, c'était vraiment une belle performance, là.
Ouais, mais au-delà de Josh Brolin qui fait un peu le narrateur de service, qui est un peu comme le personnage
véhicule
véhicule, c'est vraiment lui, je pense, qui brille de tous les feux dans ce film-là. Donc lui, en fait, c'est un jeune acteur qui est habitué de jouer dans des westerns, qui a un accent du sud très prononcé. Et qui va se ramasser pour un ordre du studio, parce qu'ils ont décidé de changer son image, puis qu'ils voulaient en faire un lead romantique, se retrouve dans ce film-là, déjà entamé, sous les ordres de cet acteur-là. Et il y a une scène justement qui. Le réalisateur lui demande de dire une ligne.
Ah, c'est la scène de la bande-annonce.
Ouais, il y a une bande-annonce autour de ça.
Il y a une ligne à dire.
Ah, waouh!
Wood at its worst, so simple. Ouais. Et il est pas capable de le faire. Puis je sais pas si en ce moment au montage, tu peux juste mettre ce bout-là de la bande-annonce, Pascal.
Ouais, ok, la magie dans 3, 2, 1.
Say your line exactly as I'm about to.
Okay, sure.
Would that it were so simple.
Would that it were so simple.
Would that it were so simple.
Would that it were.
Wait, watch my mouth. Would that it were so simple.
Would that it were so simple. Would that it were so simple. Would that it were so simple.
My dear boy, why do you say that? Why do you say twer?
Well, you said say it like I said.
Yes,
but would that it were so simple.
No, you seem to be lingering. It's interminable, the were. I'm wondering when it'll end. And we shouldn't be wondering, should we? We should be marching right along to so simple. Would that it were so simple, trippingly.
Would that it were so simple, trippingly.
No, don't say trippingly. Say the line trippingly.
Would that it were so simple.
Honnêtement, c'est une des meilleures scènes. Puis ce genre de scène-là anthologique, il y en a tout le long du film. Parce que c'est un film où les digressions sont plus importantes que la trame principale. C'est un peu en fait leur 8,5, je pense, aux frères Coen, dans le sens que Josh Brolin, c'est un peu le Mastroianni de ce film-là. Tu sais, il va s'attarder à un plateau, il vient voir si tout se passe bien. Et au lieu de s'en aller rapidement pour retourner à l'histoire. L'histoire n'est pas importante dans ce film-là. Le kidnapping n'est pas si important que ça.
C'est ça, exactement, oui.
Même s'il va provoquer son lot de scènes vraiment, vraiment originales et vraiment drôles.
Tu rentres dans des petites bulles, c'est ça. C'est...
Ouais.
Puis tu sais, t'as une scène, mettons, juste avec les censures religieuses, puis c'est juste cette scène-là, puis t'en reparles pas après dans le film. T'as juste cette scène-là qui vit en soi, puis that's it, on passe à la prochaine. Là.
C'est ça qui est magnifique. Pour expliquer un peu cette scène-là, c'est qu'ils font, donc, dans le film, ils sont en train de faire la production, l'épopée romaine de Hail Caesar, A Tale of the Christ, qui est le sous-titre. Donc, une histoire du Christ. Et il invite, donc, le personnage de Josh Brolin invite pour une petite réunion un rabbin, un représentant de l'école catholique, un représentant protestant, tout ça, et leur demande à chacun un peu qu'est-ce qu'ils pensaient du scénario, puis si la représentation de Jésus était correcte, ça fâchait personne. Et évidemment, tout le monde s'argumente sur des points rhétoriques, tout le monde un peu se met rapidement à se dire des bêtises et tout ça. Et finalement, c'est un peu ça le cinéma des frères Coen, c'est que ça tire sur tout le monde. On peut rire de tout le monde, mais c'est fait avec tellement de bienveillance et de précision que c'est jamais juste pour provoquer. C'est pas la provocation, en fait. C'est que les Coen, c'est comme des linguistes, selon moi, et ils étudient un peu comme les failles du cinéma, les failles du langage cinéma, mais également des différents accents. Puis dans la scène qu'on parlait tantôt, justement, c'est que là, on parle de deux façons vraiment de parler, qui amènent des quiproquos super drôles, mais dans d'autres, tu sais, il y a une scène de western là, qui est juste incroyable. Puis c'est vraiment juste, tu sais, des effets spéciaux old school, comment tu sais qu'il va monter sur son cheval. Puis ça défie un peu les lois de la gravité. Et le film nous montre toujours les ficelles. Tu sais, mettons la caméra va reculer, tu vois le plateau de genre 100 techniciens qui sont là pour que la magie opère, pour que ce moment qui a de l'air finalement très naturel, ben il est construit du début à la fin. Mais, tu sais, c'est aussi Roger Deakins qui signe la direction photo, puis tu sais, c'est peut-être parmi ses meilleures œuvres qu'il a jamais faites, Roger Deakins.
Mais parce que toutes les pastiches sont tellement dead-on, tu regardes les différents styles de films qui ont été reproduits, puis se sont amusés avec ça, là, puis ouais, Roger Deakins est allé chercher le meilleur du cinéma avec ça.
Ça va plus loin aussi que la copie ou que la référence, ça permet vraiment de donner une espèce de... Tu sais, c'est comme si les frères Coen s'expliquent eux-mêmes, ils expliquent leur cinéma, puis tous leurs films, ça a été un peu... On dit souvent des frères Coen, puis ça, je pense que c'est le plus beau compliment, on dit pas nécessairement que c'est des génies ou que c'est des grands cinéastes, on dit que leur cinéma, ben c'est un cinéma qui est très Coen, tu sais. Puis quand ton nom devient en soi un adjectif, c'est que tu as vraiment réussi à bâtir un univers qui est indissociable de toi, un univers qui est précis, qui est unique. On dit la même chose de Wes Anderson, Tarantino, on dit la même chose de Tarantino, David Lynch. T'sais, c'est vraiment des cinéastes qui ont changé la face du cinéma. Et pour moi, les Coen, tu regardes ces films, puis souvent, c'est des films inclassables. T'sais, mettons The Big Lebowski, oui, c'est une comédie, mais quelle autre comédie qui ressemble à The Big Lebowski? Un film comme No Country for Old Men, ben c'est un thriller à la frontière du Mexique, mais en même temps ça ressemble à rien d'autre vraiment.
Il y a un peu d'humour, mais comme l'humour genre deuxième degré, c'est pas vraiment drôle. Il y a comme il y a toujours une espèce de vibe weird qui plane sur leurs films là.
C'est ça. Donc pour moi, c'est ça, les frères Coen qui ont toujours un peu été piochés dans tous les genres. Ben là, peuvent se permettre littéralement de voguer de genre en genre à travers le personnage d'un manager de studio. Donc, pour moi, c'est vraiment, tu sais, c'est une lettre d'amour. Puis, évidemment, quand on est cinéphile, je pense qu'on est biaisé par ce film-là. Mais, tu sais, faites-vous plaisir puis allez voir ça. Puis, moi, j'avais un peu peur parce que je me disais, de sortir un film en février, d'habitude, c'est parce que le studio n'a pas fait assez confiance pour le sortir pour les Oscars. Mais, pour moi, c'est l'anecdote parfaite. Hein. C'est moi qui n'ai pas nécessairement de grosses sorties tant que ça. Même si au Québec, bon, tu sais, comme là, il y a la Palme d'Or, des pannes de Jacques Audiard qui sort que maintenant, en plein mois de février. Parce que, je sais
parce
pas
que, pourquoi, juste parce que...
c'est ça, parce qu'on est au Québec et on les reçoit toujours plus tard que partout
c'est,
ailleurs.
C'est tellement plus à propos. Ben, tu sais, dans le sens, c'est bon, là, allez le voir, ça va toujours être à propos, mais comme, c'est ça, ça fait un peu genre slowpoke, là.
Ouais, effectivement. Mais non, pour moi, Hail Caesar, c'est un grand film, et faut pas juste se fier à son étiquette de comédie, parce que pour moi, les frères Coen font... leur meilleur cinéma se situe dans les comédies. T'sais, moi, mes films préférés, c'est avec The Big Lebowski, Raising Arizona, un Hail Caesar, même si j'adore également Fargo ou certains
autres. Fargo est assez drôle quand même aussi. Fargo,
oui, c'est ça, vraiment un penchant comique. Là.
Fargo, c'est probablement leur œuvre la plus médiane à ce niveau-là. Là. C'est, mm-hmm. On est pas
quelqu'un s'en fâche dans un rideau de douche puis se fait kidnapper. Là,
non, c'est ça. C'est ça. Entre Miller's Crossing puis Burn After Reading, il y a Fargo. Là. C'est vraiment. C'est pour ça peut-être que c'est c'est un peu le film qui revient sous toutes les lèvres, souvent, quand on parle des Coen, parce que peut-être que, comme ils puisent autant dans le drame que dans la comédie, c'est peut-être, dans un sens, un de leurs plus représentatifs. Moi, c'est pas mon préféré, mais c'est souvent celui qui revient un peu en tête de liste. Là.
Mais même dans leur drame, il y a tout le temps des personnages, des cartoons qui pop, là. C'est, tu sais, dans Man Who Wasn't There, qui est quand même assez dark, un peu qu'un pastiche de film noir, t'as genre un personnage qui pop, qui est complètement weird avec une moumoute tout croche, ou ben la perruque de Javier Bardem, là. Je veux dire, y a quelque chose de plus drôle que ça, là.
Mais je te rejoins un peu, Paul, au fait, moi je trouve que c'est souvent quand t'as l'impression qu'ils font le film peut-être pour eux, et non pour, je sais pas, mais non, en même temps, ça, tout vient d'une belle place, là, je pense, là, les Coen, ils peuvent se le permettre, ils ont ce luxe-là, mais je sais pas, on le sent, la petite prédisposition à la comédie qui anyway pointe tout leur drame aussi, tu sais, comme on dit, là, même dans The Country for Old Men,
même comme ça, comme dans Inside the Moon de Wiss, tu sais, genre un de leurs films les plus peut-être sobre, effectivement. T'as soudainement une scène d'enregistrement de chansons avec Adam Driver, là, c'est incroyable cette scène-là, puis je veux dire, j'étais mort de rire. Donc, non, effectivement, puis un autre ressort narratif qui ont vraiment bien saisi les frères Coen, c'est que ça, c'est un peu, pas un cliché, mais c'est quelque chose qu'on va voir souvent dans le cinéma, des gens qui établissent un plan. Et trop souvent dans le cinéma, une fois qu'on a conçu le plan, tout ça, ben là, on va le mettre en œuvre et ça va se passer comme on a dit, donc ça fait de la redite narrative. Mais dans les films des frères Coen, les plans se plantent toujours et ça force les personnages à réagir sous pression et à improviser des solutions qui mènent finalement à des situations dramatiques beaucoup plus intéressantes. Puis c'est le cas dans les frères Fargo, pas dans les frères, non, c'est le cas dans le film Fargo.
Les frères Fargo.
c'est le cas dans le film Fargo. C'est le cas aussi dans Ave César, c'est donc un kidnapping au centre un peu du récit, mais finalement, tu te rends compte que...
C'est quand le plan encore en couille que c'est drôle, là. Ouais, c'est ça.
Ouais, puis il y a une scène notamment de... Éventuellement, bon, les kidnappeurs se mettent à discuter avec l'acteur qui est joué par George Clooney, parce que lui se demande, bon, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, cette scène-là, elle dure longtemps, puis c'est hilarant, puis ça va ailleurs, puis on n'est pas juste dans la redite de... On devait kidnapper, donc ils ont kidnappé, puis maintenant on va aller voir on va lui demander une rançon, la rançon est payée. T'sais. C'est vraiment comme ils établissent des plans pour mieux les déjouer, en fait, pour mieux placer les personnages dans le péril de la situation, puis dans l'urgence. Puis c'est ça qui marche bien, finalement. On se rappelle dans Burn After Reading à quel point, justement, Brad Pitt, qui est tellement idiot dans ce film-là, son personnage, et qu'il essaie toujours un peu d'avoir le dessus sur le. John Malkovich qui joue un agent du FBI, puis à chaque fois, tu sais, je veux dire, il est intellectuellement inférieur, puis c'est de là que vient tout le suspense, puis la comédie, puis la surprise, c'est de voir que son plan marche pas du tout finalement. Là.
Oh, ouais. Avec le petit parallèle de J.K. Simmons qui dit à répétition que ça fait aucun sens ce qui est en train de se passer. C'est vraiment à propos du film. Là. Oh,
ouais, ouais.
Mais tu sais, tantôt tu parlais des comédies en général, mais pour vrai, j'essaie de penser à des bonnes comédies intelligentes dans une année. Il y en a pas tant que ça, là. C'est souvent le genre qui est laissé de côté, puis qui ouais. On a toujours le même format qui est remâché, mais j'essaie de voir, puis à chaque année, c'est ça qui est un peu ouais, c'est un peu dommage là, mais là
on mais y va. C'est dur de faire une bonne comédie, tu sais, je veux dire. Je sais qu'il peut y avoir des dénigrants de Farquhar ou des dénigrants, mettons, de Wes Anderson, mais tu sais, va le faire, là, ton Grand Budapest Hotel, si tu trouves que c'est si ridicule que ça. Puis non, mais des fois, les gens, vraiment, tu sais, sont...
Hugo Dumas.
Ben, en tout cas, Hugo Dumas, je pense pas qu'il chialait contre les comédies, au contraire, je pense qu'il chialait contre les films gris, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, c'est tu sais, quand tu vois un tel travail de... Tu sais, puis comme tu parlais tantôt, Rémi, c'est que là-dedans, même les personnages secondaires qui sont là 2 ou 5 minutes, c'est qu'ils sont tellement intéressants, puis ils sont pas que secondaires seulement. Tous les personnages secondaires sont aussi importants que les personnages principaux. Et tu le sens, ça, les Farquhar. Et comme les Farquhar ont une bonne réputation, ils peuvent avoir les acteurs qu'ils veulent à peu près pour tous les rôles.
Tout le monde veut jouer avec eux, parce que ce qui se ressent dans le film des Farquhar, c'est que ça a l'air le fun à faire. Pour vrai, c'est comme... Ça me surprendrait là, immensément si je lisais quelque part que c'est tyrannique, un plateau des Farquhar. Ça a l'air de tout sauf de ça. Ça a l'air d'un gros party, ça a l'air de... Tu sais, puis les acteurs, ils accourent pour faire partie de ce gros délire-là, de ce trip-là. Donc oui, tout le monde veut jouer avec les Coen. Tu sais, c'est comme... Rendu là, c'est ça. Tu sais, ça devient une grosse fête. Le danger, des fois, de ça, c'est de pas finalement faire une fête qui devienne un genre d'inside, si tu veux, là, tu sais, une genre de...
Que ce soit trop fermé sur soi-même.
Ouais, que ce soit trop fermé sur soi-même. Mais en général, les Coen, ils tombent pas dans ce panneau-là. En général, les Coen, ils réfléchissent assez sur leur scénario, puis ils réfléchissent beaucoup, je pense, sur l'audience. Ils déjouent les attentes du spectateur. Le spectateur est vraiment en tête de leur processus de scénaristique. Ça se ressent. Donc, un scénario qui est très, très, très intelligent puis qui comprend exactement où est-ce que le spectateur se situe, puis t'as une grosse fight sur un plateau qui se communique. Pour moi, c'est un peu le meilleur des deux mondes, en fait. Souvent, là. Burn After Reading, je t'avoue que c'est peut-être celui-là, j'ai levé les sourcils, là, j'étais pas 100% sûr, mais règle générale, les comédies des Coen, ça me gagne à chaque fois, là.
Donc voilà, c'est à l'affiche dans tous les bons cinémas, vous irez voir ça, plaisir garanti. Je dirais pas argent remis, là, parce que j'ai peut-être pas les fonds pour ça. Donc nous, on va se laisser sur la bande-annonce d'une autre comédie que j'attends beaucoup.
Bon.
J'ai très hâte de le voir, une suite en plus. Qu'est-ce que je deviens?
Je sais où tu t'en vas.
C'est Fast and Furious 9, là.
Non,
Zoolander 2, je pense. Hein?
Oui. Juste pour dire que, d'ailleurs, Fast and Furious, parce que on sait à quel point je suis attaché à la franchise, on connaît donc les dates des 8, 9 et 10 qui auront lieu en avril 2017, 2019 et 2021, respectivement. Fin de la parenthèse. Donc on va se quitter sur la bande-annonce de Zoolander No. 2 de Ben Stiller, qui a de l'air à proposer, lui également, comme son prédécesseur, toute une flopée de caméos plus jouissifs les uns que les autres. Donc, on va aller voir ça. Et en ce début d'année, vraiment, c'est la bataille des comédies d'auteurs grand public. Alors, j'ai très hâte de voir ça. C'était notre point de vue. Mon nom est Paul Landreau. J'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante.
He was once the world's most famous male model. Even his looks were household names. La Tigre, Magnum, and of course, Blue Steel. But that was a long, long, long time ago.
Old LeMay?
We were a joke out there.
I guess fashion's changed.
Meet the biggest supermodel in the whole world is all.
Are you like a male model or a female model?
All is all.
I think he's asking, do you have a hot dog or a bun?
Oops.
Derek Zoolander, I'm with Interpol. I need your help.
She's hot. I trust her.
Someone's trying to kill the world's most beautiful people.
Oh, fudge! out world.
All of them died with your signature look. This is blue steel, right? We need you to infiltrate the world of high fashion.
We're back!
Yeah!
Are you sure Zoolander is the right man to help us?
Hey, handsome!
Ah! What the hell is your problem?
God help us all. You were amazing.
I'm sorry, I can't understand a word that you're saying.
Derek, toss me the knife.
You got it!
There's only one criminal mastermind who could be behind all this.
Prison changed me! I am bad to the core now! Todd, where's my goddamn latte?
But how am I supposed to stop Mugatu?
I'm the Mamba Pajamba! I'm the Mamba Pajamba!
You're Derek Zoolander. He stopped a Chinese throwing star with a look. Flash me that beautiful Magnum.
Wait, Magnum, now! Oh! You have this! Oh! Yeah! Tequila! Oh!
Maybe we could try a washcloth.
Ah! Ah!